Eh bien bonjour, bonjour Ménéas, et oui. Bienvenue à Ces Utopias. Tu es l'auteur de romans pour Genève depuis 2008, le cycle des Lunes de Pandore tout d'abord, et puis plus récemment, cycle dont tu viens de sortir de la Pierre des Ténèbres.
Oui, exactement. Voilà.
Et en parallèle, d'un nouveau cycle que tu as commencé, qui va suivre les aventures de Petit Cuivre.
Oui, à ce cycle, bon, c'est un cycle sans être un cycle. C'est, le personnage, lui, est récurrent, mais c'est pas une suite dans le sens d'une série. Chaque tome est en lui-même une histoire, il y a un début, une fin. On ne le retrouvera jamais ni au même endroit, ni dans la même période. C'est l'objectif.
D'ailleurs, il voyage par tous les biais possibles. Alors, parle-nous un petit peu de ton parcours, qui est pas original. Qu'est-ce qui t'a amené à l'écriture? Que faisais-tu avant?
Bon, il y a deux choses. L'écriture, je pense que dès qu'on est... On écrit toujours. Du jour où on apprend à écrire, je crois que c'est ce qu'on découvre quand on voit des collégiens, des lycéens, presque tous dans toutes les classes, ils ont des textes cachés, c'est ce qu'on a fait pareil, on écrit depuis toujours. Après, bon... L'idée de passer des petits écrits au roman, pour moi c'est venu incidemment. J'ai toujours écrit, mais jamais des romans. J'ai écrit beaucoup des chroniques, des pamphlets. C'était autre chose, c'était une manière de témoigner un peu. Et je prenais beaucoup de notes, parce que j'avais la chance de voyager beaucoup, on en parlera peut-être. La première écriture, comme quoi tout peut déclencher, moi je la dois à Harry Potter par exemple. C'est la pierre des ténèbres qui clôture cette histoire aujourd'hui, en fait ça a démarré avec la coupe de feu de Harry Potter un jour. Adulte, j'aurais peut-être pas lu Harry Potter, mais j'étais entouré de nièces, de neveux qui étaient passionnés par cette lumière de magie d'un coup quand on découvrait. Au quatrième tome qui s'appelle La Coupe de Feu, l'école de Poudlard recevait d'autres écoles de magie qui venaient d'un peu partout sur la planète. Et à ce moment-là, bon, mes neveux m'ont dit, mais pourquoi on n'est pas invité parce qu'on n'a pas créé la nôtre d'école de magie? Et ben, effectivement, c'était un bon point de départ. Donc, on s'est dit qu'on crée une école de magie, et là, on avait un nom, c'était l'école des connaissances ancestrales. Voilà. Et c'est né comme ça. Donc l'idée de dire on va faire une école, et après c'est posé le problème, oui, une école, mais comment? Alors on n'était plus dans Harry Potter, c'était plus des châteaux, on se retrouvait en pleine jungle, sous des tropiques, donc voilà, c'était une école qui ressemblait davantage à une école buissonnière. Il n'y avait pas de... C'est pas qu'on n'aurait pas aimé faire des cours, mais il n'y avait pas le temps de faire des cours. Quand on est sur une planète qui est en danger, quoi, c'est tout de suite partir en mission qui compte. Quoi. Et donc l'idée, c'était voilà, de faire une espèce d'école à la fois missionnaire, parce qu'elle est... c'est un arbre géant. Hein. L'école des Lata, c'est un arbre de 2 km de hauteur. On est bien d'accord dans ce salon scientifique, ça défie les lois physiques. Hein.
Tant mieux.
Oui, il paraît que la Sèvre ne peut pas monter au-delà de je ne sais pas combien, 650 mètres, les séquoias.
Les séquoias géants sont les plus grands.
Oui, sont les plus grands.
Je ne pense pas qu'ils aillent jusqu'à 600 mètres.
Non, ils ne vont pas à 600 mètres. Et...
C'est une voie. Mais admettons.
C'est la pesanteur. On ne va pas défiler la pesanteur. Voilà, donc c'était l'historique un peu du comment a commencé en tout cas cette écriture.
D'accord, d'accord. Et c'est un cycle qui a continué justement. D'ailleurs, c'est très intéressant que tu aies commencé par parler d'une école, et parler d'une école de magie qui plus est, connaissant ton rapport particulier justement avec l'éducation et avec l'école.
Oui, parce que ça, dans une vie antérieure, j'ai fait le choix professionnel d'être éducateur, ce que j'ai fait donc pendant 28 ans, échelonné sur une période un peu plus longue, avec des haltes pour me repositionner parfois un peu. Oui, donc l'éducatif, eh bien, évidemment, c'était la première de mes préoccupations, c'était d'apporter un plus à des enfants parfois déficients physiquement, quand on s'occupe me suis occupé de, en fait, de jeunes très très différents. J'ai commencé par la justice, donc là j'avais affaire surtout à des problèmes de délinquance. Puis après, je voulais voir un peu ce qu'étaient les autistes, les épileptiques, etc. Un beau jour, on a fini par créer notre propre école pour pouvoir mettre en commun des jeunes, que ce ne soit pas un établissement spécialisé dans quelque chose.
Qui est très important.
Voilà, c'est-à-dire que les groupes de jeunes qu'on montait, du coup, on pouvait prendre un délinquant, un autiste, un machin, parce que leur problématique était différente et en même temps, ça les aidait à réaliser que tous les handicaps peuvent être surmontés, il n'y a pas de... Et quel que soit le problème qu'on a, ben, l'autre aussi, en fait, c'est là son propre problème. Mais si on met tout ça en commun, on avait... Voilà, c'était une école qui existait, bien sûr, réellement, physiquement. Et ça m'a donné envie d'en reproduire un peu le modèle à travers les romans.
Et donc le principe de l'école, c'était justement, je crois, de faire une pause un moment dans l'éducation.
Oui.
Ça va aller voyager. Justement, le thème du voyage est très important, très intéressant.
Ouais.
Tu vis à Madagascar depuis un moment.
Oui, depuis
une belle partie de ta vie.
Ça fait 18 ans. Ça fait 18 ans cette année, donc c'est vrai que j'y suis depuis longtemps. C'est parce que le constat de départ, c'est qu'on entendait souvent dire que les enfants sont en échec scolaire. Nous, notre réflexion nous amène à penser que c'est pas l'enfant qui est un échec par rapport à ça, c'est le système scolaire qui, à un moment, n'a pas la réponse à apporter, la réponse adéquate à apporter. Donc, mais lui, l'enfant, est tout à fait prêt à suivre autre chose. Donc, l'idée, c'était de proposer à ceux qui étaient dans un ras-le-bol scolaire, de dire, ben, on fait un break, réellement, un an, donc on déscolarisait officiellement auprès de l'académie un certain nombre de jeunes, et on organisait une année en quelque sorte sabbatique autour d'un voyage, c'est-à-dire qu'on va voyager, où on va aller, selon où on va aller, ça va avoir un certain prix, ça va prendre un certain temps, donc comment on fait? On part, à chaque année c'était une équipe nouvelle, et à chaque année on partait de zéro. Si on veut aller en Italie, ça risque de coûter moins cher, et si on veut aller en Inde, c'est tout à fait autre chose. Combien de temps on va rester, c'est pareil, c'est un budget. Donc les jeunes étaient associés à la fois à cette création-là. Après, à l'intérieur, on imposait à chacun d'avoir un thème à l'intérieur du voyage. Qu'est-ce que je veux aller voir? Ça pouvait être... les filles choisissaient, ben moi je veux voir la condition des filles de mon âge dans quel pays, par exemple. Mais un garçon pouvait y aller pour dire, ben, moi je veux rencontrer l'équipe de foot, peu importe le projet, le tout c'était d'en avoir un sur le voyage, donc après réaliser ce voyage, et puis exploiter les données qui en résultaient dans la suite. Ça prenait le temps d'une année scolaire, avec des voyages plus ou moins longs, ça dépend du pays dans lequel on va. Si on fait des boucles dans les pays européens, on essayait de ne pas dépasser un mois à l'intérieur du pays. Mais dès lors qu'on s'éloigne dans les pays africains, alors là, ça nous est arrivé de faire des voyages de 3, 4, 5 mois. Le plus long, c'est 5 mois, parce que, oui, ça semble être une loi physique. Au-delà, c'est très difficile de gérer un groupe.
Comme la sève au sommet des arbres.
Oui. Après, tout le monde rentre d'abord de rentrer chez soi. Au bout de 5 mois, il faut... Donc c'était assez difficile pour certains jeunes. Mais c'était vraiment de l'aventure. Dans le pays, et après on découvre. Chaque jour on invente le chemin. C'est ça qui était intéressant.
Et c'est le chemin qui compte.
Et parce que c'est le chemin qui compte, même si bon, en cours de route on se rend bien compte qu'on puise parfois des idées essentielles. Dans les jeunes qui nous accompagnaient, il y en a un certain pourcentage qui a trouvé sa propre voie, c'est-à-dire qu'il ne savait pas à l'école avant qu'est-ce que je vais faire un peu plus tard, et puis qui. Des fois, je pense à par exemple à un jeune qui est devenu un architecte paysager parce que beau jour en Turquie, il tombe sur un village qui est tellement bien intégré dans la nature, c'était un chef-d'œuvre d'intégration comme on pouvait enlever pour chez nous. C'est pas mal. Voilà, donc celui-là, en rentrant, il savait quel était son projet, il savait, c'est parti. Bon, il n'était pas le. Bon, il n'a pas été le seul à trouver sa voie comme ça. Mais... Voilà, c'est fini. Ça faisait partie un peu de l'aventure. Donc c'était à la fois le voyage, l'éducation, une manière de relier les choses.
D'accord, d'accord. Et tu as justement ce rapport à la fois avec l'éducation et le voyage, tu l'as poursuivi par la suite dans les livres, par l'écriture. Ce rapport au langage, tu l'as également poursuivi évidemment par l'écriture. Ouais. Et justement, comment perçois-tu la fiction en termes de voyage? Quel rapport entre la fiction et le voyage? Est-ce qu'on voyage vraiment? Est-ce une évasion? Est-ce un divertissement? Est-ce que ça va beaucoup plus loin?
Oui, je ne sais pas si je peux répondre d'une manière générale. J'ai dit ça parce que moi je me situe dans un domaine à la fois du fantastique et de l'aventure. Ce que je tiens, c'est que mes fictions soient d'abord et avant toute chose une aventure, qu'on ait envie de sauter d'abord d'un chapitre à l'autre, d'avancer sur des chemins, puisque c'est ce qui se passe d'un chapitre à l'autre. En règle générale, chez moi, on n'est déjà plus dans le même décor. Parfois, les personnages peuvent changer, mais ils changent de nom, de prénom parfois, mais ça reste toujours des filles d'Ariane d'une trame. Autrement dit, moi, je ne sais pas inventer une fiction qui ne serait pas une aventure, en fait. Donc, je ne sais pas si ça répond.
Oui, tout à fait, c'est intéressant. À travers tes livres, on fait justement une quantité immense d'expériences, c'est-à-dire que le voyage va se passer à la fois dans le temps, dans les décors, dans la géographie, beaucoup dans les contacts humains. Il y a l'amitié, l'amour qui sont des choses très présente et très développée justement dans les textes, et c'est une découverte au même titre que la découverte géographique. Justement, on le voit dans avec Madagascar, où au fur et à mesure de l'évolution on découvre la grandeur du monde qui va s'étendre au fur et à mesure.
Oui, il y a deux questions, parce que tu cites deux livres différents en même temps. Oui, c'est vrai que Abracadagascar, le cycle des lunes de Pandore, c'est démarré sur un tout petit îlot au large. Donc le héros, c'est pas qu'il soit né là, mais il a grandi ici. Et son univers est donc à cette échelle-là. Il y a bien une île en face, mais on lui dit qu'il ne faut pas trop y aller, elle est dangereuse. Il faut d'abord briser un interdit avant qu'une aventure commence, quelle qu'elle soit. Donc il va découvrir effectivement que l'île d'en face est beaucoup plus grande. Puis un jour il va découvrir qu'il y en a une encore beaucoup plus grande, et petit à petit le monde s'ouvre comme ça. Et je crois que c'est toujours symbolique de cette entrée à la fois dans la connaissance qu'on va avoir du monde et de l'univers. C'est que plus on va cumuler de connaissances, plus on va avoir conscience de la masse énorme de ce qu'on ne pourra peut-être jamais atteindre. Autrement dit, plus on en apprend, moins on en sait.
On sait de plus en plus qu'on ne sait rien.
Voilà, et c'est bien pour ça que c'est le chemin qui compte, et qu'on est dans l'aventure en permanence. Il faut avancer en sachant qu'on ne fera d'abord jamais tout, bien évidemment. Mais il ne faut pas à un moment en faire un complexe, puisque il suffit de savoir ce qui est nécessaire à notre propre construction.
Et c'est ce qu'on apprend dans le cheminement, justement.
C'est ce qu'on apprend dans son cheminement, et que je fais passer par une voie un peu plus alchimique, qui est une voie de perfectionnement de soi-même. Même si, on parlait tout à l'heure de la pierre philosophale, il y a deux manières de la voir, bien évidemment. C'est soit un objet physique, une science ancienne qui a précédé la chimie, qu'on appelait la chimie, prétendait fabriquer, pas seulement chez nous. On a une vision un peu trompée de l'alchimiste, on a une espèce de laborantin plus ou moins farfelu et qui cherche quelque chose d'inaccessible. Alors que pas du tout, dans la tradition de l'alchimiste, on sait très bien que c'est essentiellement un travail sur soi, sur notre propre structure, nos propres éléments. Voilà, donc c'est pour ça que... Tandis que la deuxième partie du voyage dont tu parlais, c'est par rapport à Petit Cuivre, lui c'est un voyage un peu différent, dans la mesure où, là on rejoint un peu plus la science-fiction que la magie dans l'autre, qui voyage dans le temps. Alors, effectivement, c'est un voyageur dans le temps. Si ce n'est que, c'est pareil, je l'ai voulu un peu ignare par rapport à ça, il n'a pas la connaissance. Il a toujours essayé un peu à s'y appliquer.
Oui, il n'a pas de, d'ailleurs, il n'a pas d'éducation à proprement parler.
Il n'a pas pu recevoir
sa connaissance à travers les livres qu'il a lus et son oncle qui était communiste.
Voilà, c'est tout, parce qu'il est né dans un village où il n'y a pas d'école. L'école la plus proche est à des kilomètres, on y va ou on n'y va pas, parce qu'après il y a aussi des problèmes d'argent, puisqu'il faut de transport, etc. Donc il n'a pas appris ça, mais il va voyager dans le temps parce qu'il fait une rencontre assez extraordinaire, mais il ne maîtrise pas, du coup, ni l'époque dans laquelle il va se retrouver, ni l'endroit dans lequel, et donc là, à nouveau, j'ai voulu qu'on soit sans arrêt dans l'aventure, puisqu'on peut, moi-même, au moment où je commence l'écriture, je ne sais pas à quel endroit il va tomber.
C'est et justement, chose. Comment choisis-tu? Parce qu'il va se retrouver tour à tour, sans tout dire, mais à la fois dans des croisades au milieu d'enfants, et puis ensuite dans une Égypte antique, etc.
Oui,
etc.
Ben justement, j'avais pas... Autant j'avais que le concept au départ de l'écriture de Petit Cuivre, autant j'avais pas décidé où il allait tomber. J'avais un thème qui était de suivre l'Arche d'Alliance. Donc, par recoupement, on peut retrouver dans l'histoire à quel moment on parle de l'Arche d'Alliance, la première... Un des textes les plus anciens qui nous en parle, c'est la Bible, donc je partais de ça. Mais la Bible nous fait remonter à une époque précise, elle donne la date de création de cette arche d'alliance. Donc là, on se retrouvait en Égypte, en 1650 avant Jésus-Christ. Et donc, c'est l'époque du pharaon Akhenaton, simultané de Moïse, qui lui va être en lien direct avec cette arche d'alliance. Donc, il n'y avait que les thèmes, après à moi de me renseigner suffisamment pour savoir. Alors ça, c'est un truc qui fait trembler un peu mon éditrice, c'est que contrairement à Abracadabra, où quand je commence l'écriture, j'ai une trame qui va du début jusqu'à la fin, avec un chapitré, avec des scènes qui fait quoi, là je me suis interdit, c'est le principe même de l'écriture de ça, je me suis interdit de savoir où aller le héros. Il est dans une quête précise, après, par où ça doit faire passer, moi je ne le sais pas au départ. Donc je le cherche en l'écrivant. Bon. Ce qui parfois est dangereux. Par exemple, je me suis retrouvé bloqué un moment, alors ça c'est ce qu'on appelle la page blanche, un moment. Ça n'avance pas parce qu'on est bloqué quelque part et on attend qu'il se passe quelque chose en lien avec cette histoire. Ça fait partie de l'aventure. Quand vous partez à l'aventure, ce n'est pas du tourisme, ce n'est pas du voyage organisé. Si vous savez où vous allez dormir ce soir, je crains que ça élimine le côté aventurier du voyage lui-même.
Et la surprise elle-même et l'étonnement qu'on peut considérer comme le premier acte philosophique, justement. Et je trouve que c'est extrêmement symbolique, et justement la symbolique est quelque chose de très présent à la fois. C'est quelque chose qui est très apprécié dans les livres, c'est que ça mélange systématiquement de la technologie, donc de la science à proprement parler, de la religion, on va retrouver, enfin de la religion même davantage que de la religion, de la mythologie. À travers les temps, les époques, on va retrouver je dis des mythologies, c'est la mythologie en général qui est intégrée, et avec des figures parfois même historiques. Et c'est très intéressant de voir que dans un monde qui est imaginaire, on va toujours pouvoir voir en transparence notre propre monde exprimé, réinterprété, et finalement c'est une immense métaphore filée de notre existence qui nous amène à des considérations philosophique, d'éveil, de compréhension de plein de choses. On va se retrouver avec la sagesse de Salomon qui revient à plusieurs reprises.
Oui, parce que c'est l'intérêt de commun, par exemple, on parlait du voyage, mais c'est l'intérêt aussi de la littérature, c'est quand même la transmission de quelque chose. À un moment, il y a une transmission d'abord d'un savoir. Si ce monde perdure encore, c'est que il y a sans arrêt quelque chose qui est de l'ordre de la transmission, ou pas. Alors on parlait du côté symbolique, parce que ce sont les symboles qui bougent le moins dans le temps. Un symbole qui se transmet à travers une civilisation de siècle en siècle, parfois de millénaire en millénaire. Alors après, bien.
Se transmet par la civilisation, il fabrique les civilisations directement d'ailleurs.
Oui, dans le sens où en plus elle s'organise, une civilisation elle s'organise autour des symboles qui ont été accumulés déjà par les civilisations précédentes. Que toutes les mythologies se rejoignent à un moment, ça me semble évident, qu'on soit chez la Pachamama en Amérique latine, qu'on soit dans le mythe de Gaïa, nous plus particulièrement le berceau méditerranéen qui a donné le mythe grec, mais c'était déjà le mythe égyptien avant. Quoi.
Et d'ailleurs, le mythe de Gaïa qui a été même réapproprié scientifiquement plus récemment.
Oui, Gaïa apparaît à trois niveaux, puisque Gaïa est dans les lunes de Pandore, c'est à la fois la mère du héros, du double héros, puisque ce sont deux frères jumeaux, une mère qu'ils n'ont pas connue, qui s'appelait Gaïa, magicienne, mais qui était sous protection d'une Gaïa un peu plus connue, qui est celle de la mythologie grecque, la déesse de la terre, la déesse G, et qui est encore sous la coupe d'un archétype. La planète elle-même, on dit, il y a des légendes qui disent que la planète Terre s'est créée d'elle-même sous sa propre volonté. Quelque chose a présidé à sa création. C'est pas, on échappe là à l'ordre physique, scientifiquement parlant, de la création du monde.
C'est plus proche des mythes égyptiens, justement, de l'organisation, de l'ordre qui s'érige par lui-même à travers le chaos, et justement la raison, la conscience, les symboles, les civilisations qui sont systématiquement des agents de l'ordre à ce niveau-là.
Il resterait à définir ce qu'on appelle l'ordre. En tout cas, on voit qu'il y a un sens aux choses, donc c'est aussi le sens qu'on doit trouver dans tout voyage, dans tout déplacement. Maintenant, ordre, je ne sais pas, puisque scientifiquement, vivons-nous dans un monde d'ordre de chaos, c'est pas moi qui répondrai. L'ordre est un chaos organisé, dit-on. C'est là où je veux bien.
Ce sont les schémas perçus dans le chaos.
Voilà. Mais, donc, c'est pour dire, oui, effectivement, il y a toujours ce souci de transmettre, même quand c'est à travers un livre jeunesse, précisément. C'est un moment de formation pour les plus jeunes esprits. Donc, moi, j'estime qu'en tout cas, on n'a pas le droit de les entraîner non plus dans un délire total. Hein, donc oui, effectivement, j'utilise énormément de symboles, de mythologie, parce que je pense que c'est ce qui reste lisible à peu près par tous les esprits. Quoi. C'est un moyen de ralliement d'abord, puisque plus on les étudie, plus on se rend compte que c'est un cheminement pour se rencontrer soi-même, ce qui est le sommet de la pierre philosophale, si on y arrive. On est toujours chez Platon ou Socrate, c'est le connais-toi toi-même qui est la connaissance suprême en fait. Donc si on peut aussi initier ça à travers des plus jeunes conscients, voilà, je suis partant pour dans la bonne.
Très bien, très bien. Il y a quelque chose qui revient très souvent dans tes livres aussi, c'est ta nature de conteur. Entre chaque chapitre, tu comptes l'histoire. Le narrateur est présent au-delà même du récit, comme veillé au point du feu.
Oui,
quel rapport entretient-tu avec ça?
Ben, précisément.
Est-ce qu'on va retrouver Homer quelque part dans cette idée-là?
Oui, parce que quand on est si on vit sa vie dans un esprit de voyage, c'est évident que la tradition orale a une prégnance beaucoup plus forte que dans les civilisations très sédentarisées, où c'est l'écrit qui prédomine. En voyage, qu'est-ce qu'on peut faire? On prend des notes, on n'écrit pas, on prend des notes. Donc, je crois que ça joue. Je ne sais pas. Reprends la question, s'il te plaît.
Je me demandais justement quel était ton placement. C'est une curiosité, en fait, qu'on voit dans tes livres, de voir ce narrateur qui s'érige au-delà il y a de l'œuvre et qui parle. Et je trouve que c'est très intéressant parce qu'il y a un côté initiatique qui est très présent, qui est en lien c'est avec le fait que ce soit de la littérature jeunesse, justement. Et tu as cette approche, justement, d'accompagner, mais sans tracer le chemin directement. C'est-à-dire que ton rôle semble être celui de guider, de faire comprendre, mais sans intervenir directement dans le cheminement de qui ira l'œuvre.
Oui. L'idée au départ, elle était de l'éditrice, c'était une espèce de mise en abîme comme ça, de distanciation entre l'auteur, le narrateur, et puis après les personnages. Moi j'ai fait le choix dans cela d'être le narrateur. Donc le narrateur, il est à l'intérieur évidemment déjà de l'histoire. C'est pas l'auteur qui parle, c'est le... Voilà. Et donc, oui, ça me plaît beaucoup, c'est un peu comme au cinéma quand Hitchcock apparaissait dans chacun de ses films. Moi, j'ai choisi d'apparaître un petit peu à l'intérieur de chacune des histoires. Bon, je les ouvre, je les clôt. Dans la pierre de ténèbres, on va un peu plus loin puisque voilà, je suis un des personnages du dernier chapitre. Et ça me semblait logique de tirer le rideau une pièce que j'avais ouverte en moi. Bon. Voilà, ça c'est un peu pour ce retrait.
Il y a l'idée de lever le voile petit à petit de toute façon dans ton livre.
Lever le voile, c'est indissociable de l'idée même d'initiation, de voile initiatique. C'est lever le voile d'Isis, c'était le grand thème des cultures, on dit grec parce qu'on pense à Isis, mais en réalité c'est bien avant, ce sont des déesses sumériennes. Étaient des déesses cachées, effectivement, représentant la connaissance. Et tant qu'on ne tombe pas le voile, on ne peut pas accéder à grand-chose. Donc voilà. C'est pour ça que c'est le rôle que j'ai choisi de partager, en espérant que chacun tire pour soi-même le propre voile, de son propre chemin.
D'accord. Et alors, une petite question. Justement, tu t'es spécialisé pour l'instant dans la littérature jeunesse, avant de vous dire, mais bon, je préfère voir ça comme du roman d'aventure en général, finalement, plus que de la littérature jeunesse, parce que tu as un vocabulaire qui aurait été le même que pour de la littérature dédiée à des adultes, je pense. Tu prends au sérieux ton lecteur, quoi qu'il arrive. Alors pourquoi le choix de s'adresser spécifiquement, si c'est un choix, à de la jeunesse?
Oui, aujourd'hui non, je ne m'y adresse pas spécialement, mais ça on en viendrait à parler d'un truc qui hante la plupart des auteurs, c'est la classification. Hein. C'est sur quelle étagère on va être étant donné dans une librairie. Ah bon, et oui, mais c'est pas nous en tant qu'auteurs qui créons ces espèces de
classes. C'était la question mal formulée.
Ce sont des cases dans lesquelles on veut nous ranger, bien sûr. Non, tout à l'heure j'ai dit que le premier je le devais à Harry Potter. Voilà. Donc c'est vrai que là il y avait une volonté de m'adresser à un public assez typé, un certain âge, de 9 à 12 ans. Moi j'avais pensé de 9 à 12 ans, je me suis rendu compte très vite que ça signifiait absolument rien parce que 14, 15, 16 ça le lisait aussi et les parents qui les avaient achetés pour leurs enfants finissaient par le lire derrière pour savoir ce que ça contenait. Donc il n'y a pas d'âge, quoi. C'est comme Tintin, c'est de 7 à 77. Encore, on vit de plus en plus vieux. Y a pas, comme on dit, il n'y a pas d'âge pour rester jeune. Après, bon, je me suis rendu compte qu'il ne fallait pas écrire comme ça. C'est évidemment une erreur, quoi. En plus, ce serait prendre les jeunes pour presque pour des imbéciles, alors que c'est tout le contraire. C'est souvent eux qui ont bien des leçons à nous donner. Quoi. On n'est jamais...
La vérité sort de la bouche des enfants.
Oui, c'est vrai. On ne sait jamais à quel point il faut se hisser parfois sur la pointe des pieds pour les comprendre. Donc, je ne voulais pas les maltraiter. Donc, c'est vrai que ça oblige à conserver, un certain niveau de vocabulaire. Moi, je tiens. Au début, on me disait, mais si tu parles d'un archétype... Un gamin de 9 ou 10 ans, qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas 50 solutions, soit il ne le sait pas. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre un dictionnaire, tout de suite, s'il en a. soit le contexte lui donne une idée suffisante et il se dit je verrai ça plus tard, et puis soit il invente lui-même son archétype, ce que ça peut représenter pour lui. Il est en train de créer son propre univers, c'est à ça que je l'engage, c'est à recréer au fur et à mesure cette histoire, si ça sent bien dedans. Voilà pourquoi il faut, en réalité simplement se lâcher, quoi, écrire, puis c'est, sans se poser des questions. Surtout, on ne cherche pas la même.
Et justement, sur la notion alors, de parcours initiatique, ce qu'on va retrouver justement dans tes livres, est-ce que suite à ça, tu arrives à voir un moment, un passage entre l'enfance et l'âge adulte? Est-ce que tu peux amener ou est-ce que tu peux voir une distinction à ce niveau-là? Parce qu'on se rend compte justement dans ton lectorat même, on peut le lire et parcourir justement et avoir cet aspect initiatique à tout moment. Et tes personnages justement sont jeunes et grandissent. Et comment vois-tu le passage à l'âge adulte? Ou à la raison adulte, peut-être.
Oui, mais là, j'ai pas de théorie, mais j'ai presque envie de dire qu'elle est un peu toujours la même. C'est-à-dire, effectivement, j'ai un personnage qu'on va trouver, il a 12 ans, par exemple, Tipu, si on parle de lui, il a 12 ans au début du roman, mais on va le retrouver, il en a 16 à l'époque d'Akhenaton, il en a 19 quand on le récupère à notre époque moderne, et on va le suivre jusqu'à ses 50 ans, à peu près. Bon, à tous les âges, il a été confronté à un savoir, c'est-à-dire soit une absence de savoir et il faut apprendre, soit un savoir qu'il a déjà et qui parfois se révèle dangereux selon l'époque à laquelle on possède un savoir. Savoir certaines choses au Moyen-Âge, ça pouvait couper le bûcher, quoi. C'était assez fréquent. Bon. Après, l'expérience qu'il peut tirer, je crois que quel que soit son âge, il y a toujours une expérience à tirer. Moi, j'ai toujours été surpris de voir à quel point les écrits des uns et des autres, quand on a simplement 17 ans, je pense que quelqu'un comme Rimbaud, à 17 ans, il traverse la Commune de Paris, il est à un an de nous écrire le bateau ivre. Je ne crois pas qu'il aurait pu faire meilleur à 50 ou à 75 ans, et donc je ne vois pas de différence d'âge pour que l'apparition de quelque chose se fasse. C'est un peu comme si on était simplement je ne veux pas réduire, des médiums en quelque sorte, c'est-à-dire il y a quelque chose qui arrive, qui passe par nous, qui est de l'ordre. Alors après, on appelle ça comme on veut, il y en a qui disent l'inspiration, il y en a qui disent l'intuition,
la sagesse.
Oui, l'inspiration, je ne sais pas qui c'est qui disait, c'est toujours faux, on n'est pas inspiré, puisqu'on est en train précisément de coucher quelque chose, on expire plutôt quelque chose qui a été passé, on l'expire, on le couche sur le papier, oui, c'est une respiration en tout cas. Mais après, non, je pense qu'il n'y a pas... Dans la suite, d'ailleurs, on va retrouver Petit Cuivre à des âges encore différents, peu importe. Parce que je crois que les chemins, nos différents chemins, si on a eu plusieurs vies, si on vit dans un multivers avec une infinité d'espaces disponibles presque en simultané, c'est pour tout le monde, il n'y a pas d'âge et il n'y a pas de...
Il y a ça qui est merveilleux justement, c'est ce qu'on retrouve, c'est cette perméabilité justement de l'enfance jusqu'à l'âge adulte et justement de cette...
Voilà, après on peut être limité dans la manière de traduire vraiment, c'est parce que je pense à un bouquin qui vient de sortir en ce moment de Neil Gaiman qui s'appelle « L'océan du chemin ».
Oui.
Oui, il y a que je recommande parce que c'est un petit bijou. On n'est pas pour ceux qui aiment Gaiman, on n'est pas dans les histoires loufoques et fantastiques avec lesquelles il nous fait souvent régaler, mais on est dans une histoire de l'enfance de Gaiman à un moment, et c'est une immersion totale dans ses souvenirs d'enfance, mais au point qu'on a l'impression aussi que c'est l'enfant lui-même vraiment qui l'écrit. Là, je crois qu'il a atteint un truc très 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 performant. Voilà, donc c'est j'aimerais bien, voilà. C'est un peu dans cet esprit, effectivement, retrouver, si on veut s'adresser à quelqu'un, il faut le faire pleinement, en se mettant dans l'esprit. Et je crois qu'on peut se mettre très bien dans tous les états d'esprit, parce que je crois qu'on a les possibilités physiques de le faire. Voilà.
Bon. Et est-ce que tu pourrais nous toucher un mot de tes projets à venir ?
Dans les projets à venir, bon, il y a un petit livre qui est en écriture et on ne va pas le dévoiler pour l'instant. Si ce n'est qu'il ne va pas seulement voyager dans le temps, mais il va voyager à l'intérieur de livres, c'est-à-dire qu'il va tomber dans des univers livresques. Donc je dévoile pas dans quel bouquin il va tomber, ça, on va le suivre. Là, on était dans le thème de l'Arche d'Alliance. Maintenant, on va le suivre sur un thème qui regroupe les autodafés, les bibliothèques qui prennent feu régulièrement au cours de l'histoire et des civilisations, un peu comme si chaque fois que l'homme atteint un certain niveau de connaissance, il s'arrange pour tout détruire d'un coup, et on va de déluge en déluge, un peu comme ça. Comme ça, voilà. Sinon, entre les deux, ben oui, non, j'ai d'autres projets, parce qu'il sort un petit bouquin au mois de mars prochain, mais qui n'a rien à voir avec le fantastique ou la magie, qui sont des croquis de ce qu'on appelle les figures du pays. Dans chaque village, il y a des personnages qui sont célèbres pour faire telle ou telle chose. Moi, je me suis amusé à faire ça chez moi, donc c'est des souvenirs des années, c'est un gros droit que je n'ai pas connu, des années, mais je connais le début, des années 50 à 80, des personnages, voilà. Et donc ça n'a rien à voir avec la magie, mais c'est pour dire qu'il y a plusieurs projets simultanés en route, voilà, on en est là pour le moment.
Et alors une dernière question, comment as-tu vécu la fin de ton cycle des Lunes de Pandore ?
Non, c'est un truc que j'ai fait avec plaisir. À l'origine, la pierre de ténèbres n'aurait pas dû exister, puisque les Lunes de Pandore, c'était une trilogie, il y avait Abracadabascar, le saut de Siané et les secrets de Gaïa. J'ai dû commettre sans doute une erreur, par exemple, comme quoi c'est toujours le lectorat qui décide. J'ai dû commettre une erreur, à la fin, mon héros était transformé en étoile. Dans les mythologies anciennes, ça arrivait, c'était fréquent que les dieux transforment, c'est le cas pour Ganymède. La plupart des étoiles dans nos constellations ont été des personnages, souvent. Et donc il devenait une étoile, et pour moi c'était un très beau final, parce qu'une étoile c'est une épiphanie, en fait, il y avait une étoile de plus qui se trouvait dans le ciel. Et les plus jeunes lecteurs ont trouvé qu'il était mort, enfin, c'est comme s'il n'était plus là, et pas envie de perdre le personnage, pas envie de perdre le héros. Et donc en discutant un peu dans les collèges et dans les rencontres qu'on fait comme ça dans les classes, l'idée elle est de... Dans le troisième, j'ai récolté quelques idées. Il fallait le ressusciter, mais d'une manière inverse, pareil, avec l'accord des dieux, etc. Le faire revenir. Ça a donné cette histoire. Effectivement, bon, il revient, mais il revient au dernier, tout dernier chapitre. Donc c'est quand même... On peut dire que c'est à la fois une suite, si on veut, mais c'est un livre que j'ai conçu pour qu'il puisse être lu séparément. On n'est pas obligé d'avoir lu la trilogie qui précédait, parce que le héros, de toute façon, n'y est pas du tout dans ce livre. Il est présent sans arrêt, ça tourne autour de lui, mais il est physiquement absent du bouquin. C'est un livre sans son propre héros. Bon, c'est sans doute pas un anti-héros pour autant, mais c'est un peu comme ça.
Le livre, voilà. Il n'y a pas
de... Et donc, héros. C'était une manière de clôturer à la fois ceci, il faut que les choses prennent fin. Et puis parce que je suis dans un autre personnage maintenant. Mais il y a, comme on découvre dans Petit Cuivre, que tous les univers sont extrêmement liés les uns aux autres, c'est très difficile de les lier. Les deux sont liés également avec des personnages récurrents. Je parlais d'Alceste, qui est un professeur. On le retrouve quelle que soit l'époque, pratiquement, même dans les voyages dans le temps. Il y a toutes les époques, c'est un peu le symbole du savant génial, quoi. Et les génies un peu bafoués, puisqu'il s'agit de Nikola Tesla.
Alceste Tesla,
et voilà, qu'on redécouvre de plus en plus dans notre époque, parce qu'on se rend compte qu'à la sienne, on l'a sérieusement maltraité, alors qu'on lui doit l'invention comme ce qui nous éclaire là, hein, c'est la, qu'on le veuille ou non, c'est l'invention de l'électricité, c'est pas Thomas Edison, mais c'est bien. Il a inventé le courant continu, mais pas l'alternative. Tesla dépose 800 brevets desquels vont découler les télévisions, les ordinateurs, à peu près tout ce qu'on utilise aujourd'hui. Bon, il meurt dans une chambre de l'hôtel. Voilà, donc moi, c'est un personnage que j'ai envie de juste le mettre en évidence, pour que, attirer l'attention, un œil nouveau sur ce personnage qui existe pourtant depuis toujours. À chaque époque, il y a ce type de personnage. Donc j'essaie d'aller à leur rencontre.
Justement, les livres sont traversés de grandes figures à chaque fois, à la fois qui véhiculent de la sagesse. On parlait de Salomon, également des artistes avec des tableaux et des hommes oui, et des choses comme ça qui sont systématiquement présentes. Et ensuite, beaucoup de dieux, beaucoup de grandes figures auxquelles on s'identifie beaucoup plus volontiers finalement à travers cette mise en littérature, à travers notre époque justement où elles ont été mises en retrait. Alors, je voulais te demander justement quel est ton statut sur la mythologie dans notre société moderne.
Je sais
toujours les dieux.
Oui, non, je sais pas, ici évidemment, mais quand on est dans un salon de fantastique, de l'imaginaire, de science-fiction, c'est sûr que la mythologie est très présente, prégnante. Après, je suis pas sûr qu'elle existe tant que ça dans la vie quotidienne. Je sais pas, ça manque cruellement, il n'y a aucune émission, je sais pas, sur aucune chaîne de télé qui serait en continu autour des thèmes mythologiques, autour même de ces littératures-là, de l'ésotérisme. On a peu parlé de l'ésotérisme, mais ce sont des domaines infinis. C'est parce que on a toujours peur, on parlait de transmission du savoir, mais oui, c'est aussi parce que j'ai peur qu'elles ne soient pas assez présentes, que j'ai envie de les faire partager, pour continuer à les véhiculer, quoi, parce que c'est les seuls domaines qui soient réinterprétables par chacun d'entre nous, donc chacun peut y puiser ce qu'il a construire sa propre histoire. Donc. Alors oui, on suit des personnages, par exemple, dans la pierre de ténèbres, c'est pareil, à un moment, ils vont voyager dans le temps. J'ai tenu à les faire rencontrer deux personnages qu'on a oubliés, le roi René d'Anjou, par exemple, parce que c'est le personnage en lui-même qui est intéressant. Grand oublié de l'histoire, puisque c'est un... Voilà un bonhomme qui est... Il n'est pas roi d'Anjou, mais il est duc d'Anjou, il est duc de Bar, de Lorraine, il est roi de Naples, roi de Jérusalem. On ne sait pas que c'est lui qui chevauche aux côtés de Jeanne d'Arc, qui commande la première expédition à Christophe Colomb. Et c'est un personnage complètement absent des bouquins d'histoire. On passe très vite dessus, on suppose qu'il a été gênant sans doute. Voilà, pour la roi, il nous a laissé des traités de chevalerie, c'est aussi poète, écrivain, etc. Voilà, alors c'est un blackout. Alors voilà, moi j'invite à aller à la rencontre de celui-ci, et puis d'un certain Claude Vig, parce que ce qui m'intéressait, c'est qu'on devine Claude Vig à travers ça. Parce que c'est. Eh bien voilà, c'est une époque où on a des Visigoths, des barbares qui se déplacent et qui viennent de faire trembler la Chine. On a construit la grande muraille de Chine pour se protéger des Visigoths là-bas. Les Visigoths mettent un feu à sac à peu près toute l'Europe qu'ils traversent. Ils arrivent dans les pays de Thuringe, les Ardennes, et là il y a un gamin de 15 ans qui s'appelle Coris, qui leur dit non, c'est fini, vous passez plus. Ça, j'avais envie de montrer aux jeunes que régulièrement dans l'histoire, effectivement, jadis, les rois, c'était des gamins. On pouvait être roi à Akhenaton et roi monte sur le trône à l'âge de 10 ans. Et bon, voilà, moi ça me plaît de partager ça avec les jeunes de notre époque. Comment on est aujourd'hui quand on a 10 ans, 15 ans? Moi, un truc qui m'avait marqué, c'était de Jules Verne, capitaine de 15 ans. Ça, c'est le livre où je m'étais rendu compte que, oui, on pouvait avoir un destin glorieux. La valeur n'attend pas le nombre des années, il tombe pareil. Voilà, donc j'avais envie de présenter ce Clovis-là. En réalité, j'ai un peu triché parce qu'il a 17 ans quand il va être le Visigoth. Là, dans l'histoire, il en a 15. Ça, bon, mais ça joue sur 2 ans, mais c'est pour dire qu'il restait jeune malgré tout pour être quelqu'un à qui on voit le nom de la France, par exemple. Ce qu'il n'aurait jamais pu, parce que c'était pas en France, c'était un mérovingien, Clovis. C'est ce que j'invite à découvrir. C'est qu'on devrait s'appeler la Mérovingie. Ouais, c'est de l'aventure. On reste dans la fiction, on est bien d'accord.
Bon, eh bien écoute, merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait des questions éventuellement? Eh bien,
je sais pas.
Merci.
J'ai juste une question hein, par rapport à ce que votre désir extraordinaire de partager avec notamment les enfants. Est-ce qu'on partage de la même façon quand on s'adresse à des jeunes garçons et à des jeunes filles? Vous avez beaucoup parlé d'héros, pas beaucoup d'héroïnes. Est-ce qu'il y a quelque chose de différent à faire dans votre...
Excellente question.
Oui, mais c'est très bien de la poser comme ça la question. Parce qu'effectivement, j'ai plus de lecteurs qui sont des lectrices. C'est bien, on se rend compte dans les collègues. Bon, on dit aussi, en règle générale, les filles lisent quand même plus que les garçons. Oui. Et non, c'est vrai que j'en ai pas trop parlé parce que c'est un peu un principe de tous ces bouquins. Il y a toujours aussi une histoire d'amour. On a mis l'accent là sur l'aventure, le côté aventurier. Mais bien sûr, il y a aussi une histoire de quête. Quand on se cherche soi-même, il y a quand même aussi une quête de l'âme sœur. Et bon, il n'y a pas de crainte. Je veux dire, cette quête est liée. Quoi. Sa chérie s'appelle Lilitou, et comme lui, il a des racines sumériennes. Et là, on n'est pas dans une école de magie, je l'ai fait rentrer dans un temple sumérien, c'est l'Enlit. C'était une initiation qui se donnait à Sumer, on parle de Sumer de moins de 6000 à peu près. Quoi. Donc voilà l'époque à laquelle j'ai voulu situer leur racine, leur appartenance. Effectivement, Lilitou prend de plus en plus d'importance à la même hauteur que le héros. J'aime pas le terme de héros, c'est pour ça que tout à l'heure je disais que dans la pierre de ténèbres, le héros est absent. Dans tout le livre, il n'apparaît qu'au dernier chapitre. Je ne veux pas en faire des héros, ce sont des personnages. Dans le premier, oui, ça semblait plus évident parce que c'est le thème de l'élu. Il y a toujours un élu qui va sauver la planète. Alors là, on est dans le thème récurrent depuis le début de l'histoire des livres de fantasy. Quoi. C'est toujours le héros qui sauve la princesse, le dragon. Moi, j'avais envie de sortir. Bon, je pars de ce même point, mais au fur et à mesure, c'est pour montrer comment on peut s'en éloigner. Et créer autre chose.
Et justement, le personnage principal de Petit Livre se révèle énormément à travers la communication, l'amitié, l'amour de ses
camarades. Oui, c'était aussi pour casser ce mythe du héros qui résout toujours tout seul. Quoi. C'est qu'au fur et à mesure qu'il va dans un monde qui est de plus en plus grand, il se rend compte qu'on est de plus en plus seul. Et que quoi qu'on ait à réaliser, c'est s'il n'y a pas les amis, les uns, les autres, c'est-à-dire si à un moment c'est pas une chaîne de solidarité qui unit, et ben non, tout seul je peux pas sauver la planète. En fait, bon, voilà, il faut qu'ils le reconnaissent aussi, quoi, et que tout se fait parce que autour, oui, il y a l'amour, l'amitié, la solidarité, parce que ça voilà, c'est les valeurs essentielles que j'avais envie, quoi, un peu de partager. Quand je disais à l'origine il y avait Harry Potter, on s'est dit, quand on s'est dit on crée une autre école de magie qui est différente, il y avait cette idée par exemple de développer, mettre l'accent sur ces valeurs de fraternité et de partage qui nous semblaient absentes. Donc, par exemple, Harry Potter est immensément riche, il a des amis immensément pauvres, et à aucun moment ce pognon va passer d'une poche dans l'autre, ne serait-ce qu'un minimum. Moi, je trouvais que c'était pas des choses, bon, l'argent avait trop de valeur, donc moi je l'ai fait immensément riche, sauf qu'il va sur une île où l'argent n'existe pas, il n'a donc aucune valeur. Donc, il faut que tout se passe par d'autres choses, d'autres valeurs. Quoi. C'est vers ça que j'essaie de les entraîner un peu, à développer. Il y en a qui ont bien compris, parce que dans les classes, souvent, on dit c'est bien le système de l'ATA, ou c'est pas forcément le prof qui est toujours le plus intelligent. Dès lors qu'on possède un savoir, quel qu'il soit, si on le possède vraiment, on peut le transmettre à n'importe qui, plus jeune, plus vieux que ça. L'idée de cette hiérarchie permanente, non, c'est faux dans les classes. Ça, je ne l'ai pas pour le livre, mais En pédagogie, on avait des classes comme deux crolis dans la même classe, et bien on peut être de la maternelle presque jusqu'au baccalauréat. Et les uns béquillent les autres dans un partage de savoir en continu. Quoi. Il n'y a pas toujours besoin du prof. C'est pas vrai.
Eh bien, merci beaucoup.
Très
bonne continuation, et je vous invite à plonger dans les aventures de Ménéas Martin.
Merci.
Merci tout le monde.
Ça c'est pas. Oui, je crois que ça c'est pas. Merci.